Radio Tamani, voici nos informations en français.
Les autorités ivoiriennes viennent de réagir à l'interpellation des 49 soldats ivoiriens à l'aéroport de Bamako. Selon elles, les autorités maliennes étaient informées de l'arrivée de ces militaires. Elles demandent leur libération. Les populations de Ménaka exigent le départ du gouverneur de la région et certains responsables locaux. Elles ont marché ce matin pour protester contre l'insécurité, les problèmes d'eau et d'électricité. Le stade omnisports Modibo Keïta est doté d'un nouveau centre de médecine du sport. L'inauguration a été faite ce matin à Bamako. L'objectif, selon les responsables, est d'éviter les évacuations coûteuses des sportifs à l'étranger. C'était là le sommaire de cette édition. Mesdames et messieurs, le développement dans un instant. Bonsoir à tous. À la présentation, Hamsitou Touré. Réaction des autorités ivoiriennes suite à l'interpellation des 49 soldats ivoiriens au Mali. Dans un communiqué, le Conseil national de sécurité de la Côte d'Ivoire a indiqué que les autorités maliennes étaient informées de l'arrivée de ces militaires. Les autorités ivoiriennes demandent donc la libération des militaires arrêtés. Le gouvernement du Mali avait qualifié hier ces soldats de mercenaires. Il a assuré qu'ils seront remis à la disposition de la justice malienne. Mamadou Samassikou.
Jusqu'en début d'après-midi de ce mardi 12 juillet, aucune réaction officielle n'est venue du côté des autorités ivoiriennes sur l'arrestation de ces soldats ivoiriens. Jointe par nos soins, la représentation diplomatique du pays au Mali n'a pas souhaité commenter. Selon le communiqué du gouvernement, la hiérarchie militaire ivoirienne contactée a dit ignorer tout de la présence de ces militaires. Après les tweets de son porte-parole hier, l'administration affirme n'avoir aucune autre information à ce stade. Dans ses publications, celui-ci affirmait que les autorités maliennes avaient été préalablement informées de l'arrivée de ces soldats ivoiriens. Rappelons que les autorités maliennes ont déclaré ce lundi qu'elles considéraient ces militaires comme des mercenaires. Elles ont assuré qu'ils seront remis à la justice. Pour l'instant, pas de réaction officielle de la classe politique ni de la société civile sur cette affaire. Mais sur les réseaux sociaux, elle défrait la chronique. Il faut noter que l'interpellation de ces militaires ivoiriens est intervenue une semaine seulement après la levée de l'embargo de la CEDEAO et de l'IOMA sur le Mali.
Comme je le disais à l'instant, les autorités ivoiriennes viennent de réagir. Elles affirment que les homologues maliens étaient informés de l'arrivée de ces militaires. Une copie de leur ordre de mission leur avait été transmise. Les autorités ivoiriennes demandent donc leur libération. Sur le même sujet, l'arrestation des soldats ivoiriens ne peut avoir qu'une conséquence diplomatique entre le Mali et la Côte d'Ivoire, affirment certains analystes politiques. Le politologue Brahima Mamadou Kone estime que les intérêts en jeu pourraient prendre le dessus afin d'aboutir à un règlement pacifique de cette affaire dans les plus brefs délais. Il est joint par Mamadou Samassekou.
Vous savez, nous sommes dans un espace d'intégration où les économies sont intégrées, où il y a une interdépendance entre les différents pays. Nous sommes un pays qui est plus ou moins dépendant avant les sanctions qui étaient indépendants, soit du port autonome d'Abidjan et du port autonome de Dakar. Et il y a les intérêts économiques qui pourraient intervenir en jeu entre les deux États, et pour les intérêts géopolitiques, pour les intérêts diplomatiques, pour les intérêts économiques, la diplomatie peut jouer son terrain et qu'avec les autorités de la transition, qu'on puisse trouver un terrain d'entente dans le cadre dans lequel les autorités de la transition pourraient faire des concessions au regard du nombre important de nos citoyens qui se trouvent sur le territoire ivoirien et pour pouvoir les remettre à la disposition, n'est-ce pas, de la République de Côte d'Ivoire qui, de son tour, va les mettre à la disposition, n'est-ce pas, de la justice ivoirienne. Ça peut arriver souvent dans les relations entre deux États.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Je l'annonçais dans les titres, les organisations de la société civile de la région de Ménaka ont marché ce matin. Des centaines de personnes se sont retrouvées devant le gouvernorat de Ménaka pour protester contre l'insécurité, l'insuffisance d'eau, le manque d'électricité, entre autres. Ils ont été accueillis par le gouverneur et d'autres responsables. Dans leur déclaration, les manifestants ont exigé le départ du gouverneur de la région de Ménaka et de certains responsables. Des précisions avec notre correspondant Mohamed Agissa Feitane.
Dans leur déclaration, les manifestants ont souligné, je cite, l'incapacité du gouverneur à gérer la situation malgré les forces mises à sa disposition et demandent son départ. Sidi Barka, président du Conseil régional de la société civile de Menaka.
Demandons le remplacement du fournisseur en carburant de l'EDM par un fournisseur de Menaka. Le départ de monsieur le gouverneur de l'agence de Menaka. Le départ du monsieur le directeur de l'EDM de Menaka. Le départ du directeur régional de la Somagem. Le départ du commandant Fama. Invitant les autorités administratives, militaires, régionales à plus de rigueur pour la sécurité de Menaka.
Tout en reconnaissant que la société civile est dans son rôle, les chefs d'exécutif régional trouvent qu'il y a fort longtemps que la manifestation devait se tenir. Mohamed Al-Hanafi Meiga.
Si on examine la situation de façon objective, cette protestation que vous faites là aurait dû se faire déjà il y a quelques mois, puisque les assassinats ciblés dont vous parlez n'ont pas commencé hier ni aujourd'hui. Les enlèvements de personnes en pleine ville n'ont pas commencé aujourd'hui, avec paiement de rançon.
Selon Mohamed Al-Hanafi Meiga, tous les actes commis dans la ville de Menaka et environ l'ont été par des personnes vivant à Menaka, pas ailleurs.
Ceux qui enlèvent les personnes, ceux qui braquent, ceux qui assassinent, malheureusement, ce sont des fils de Menaka. Vous les connaissez autant que moi, sinon plus que moi.
Mohamed Ag Issafetan, Menaka Studio Tamani.
Autre actualité du jour, la correction des épreuves du DEF a démarré hier lundi dans certaines académies du Mali. Mais selon le directeur national des examens et concours Mahamadou Keïta, certaines régions ont déjà fini avec cette étape. Toutefois, à l'académie de l'enseignement de la rive gauche de Bamako, la correction pourrait aller jusqu'au vendredi prochain, a indiqué la directrice de l'académie, Madame Kone Rukiatou Dia. Le point avec Abdoulaye Touré.
Selon le directeur national des examens et concours, la correction du DEF a démarré sur l'ensemble du territoire. Mais Mahamadou Keïta a précisé que chaque académie a la liberté de programmer le démarrage de sa correction.
Les académies qui ont commencé aujourd'hui, mais je rappelle qu'il y a des académies qui ont déjà terminé la correction du DEF, notamment Bougouni qui a terminé la correction du DEF, Sigasso et Koutchalo aussi ont terminé la correction du DEF. La latitude est donnée à chaque académie de programmer la correction.
Au niveau du centre de correction installé au lycée Askia Mohamed, la directrice de l'académie de Bamako Rive Gauche nous a affirmé que les correcteurs sont minutieusement sélectionnés. Selon Mme Kone Arkiatouja, les textes sont explicites par rapport au choix des correcteurs.
La correction se déroule normalement. Donc, pour le moment, il n'y a aucun incident. Il y a des textes qui régissent les examens. Et ces textes disent la première des conditions, il faut détenir d'avoir une classe de 9e année. Il faut avoir une bonne probité morale pour être un enseignant correct, assidu. Et il faut maîtriser aussi la discipline.
A noter que pour la correction, les noms des candidats sont retirés à la faveur des numéros identifiants. Selon la directrice, les délais de la correction dépendent de la taille des académies.
Le centre de médecine du sport a été inauguré ce mardi matin au stade Modibo Keïta de Bamako. Ce nouveau joyau a été construit à hauteur d'un milliard de francs CFA sur financement du budget national. Il est baptisé Lassana Traoré, dit Ambiance, un marcheur malien décédé lors d'une compétition nationale de marathon en juillet 1965. Selon les responsables, ce centre a pour mission d'assurer la santé des sportifs et aussi contribuer à lutter contre le dopage dans le sport au Mali. Lalé Tangara nous fait le point.
Bâti sur une superficie de 9 777 m², le centre de médecine du sport Lassana Traoré dit Ambiance permettra de contribuer au rayonnement du sport malien, a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports, Moussa Ag Atayer.
Le centre de médecine du sport aura la spécificité de procéder à la prise en charge de l'homme sain en mouvement, qui est le sportif, mais aussi de s'ouvrir aux patients ordinaires en élevant le niveau d'exigence en termes de qualité de soins pour être accrédité aux normes ISO 9001. Toutes les prises en charge sont disponibles sur place au Mali. Les sportifs n'auront plus d'excuses pour ne pas donner le meilleur d'eux-mêmes.
Cet avis est aussi partagé par le directeur du centre. Dr Adama Youssouf Sangaré explique que ce bâtiment est un élément nécessaire que les médecins avaient toujours demandé aux autorités pour éviter les évacuations coûteuses des sportifs à l'étranger.
Depuis des années, les autorités ont compris qu'on ne peut pas faire la performance sportive sans qu'il n'y ait pas un bon suivi. Donc c'est pour cette raison qu'on a mis le centre avec objectif d'orienter et de suivi des sportifs d'élite. Ça va changer d'abord le suivi des sportifs. Quand ils sont blessés aussi, on peut les récupérer très rapidement. Pour éviter les évacuations sanitaires qui sont très très coûteuses, donc on va tous les traiter ici.
À noter que le centre de médecine du sport Lassana Traoré, dit Ambiance, comprend 55 salles et bureaux organisés en 6 blocs. Un bloc de consultation, d'imagerie, de kinésithérapie, d'un laboratoire opératoire et d'un bloc d'hospitalisation. Selon le ministre en charge des sports, d'ici la fin de l'année, le centre sera doté de la dernière génération d'imagerie résonance magnétique IRM3 Tesla et d'un scanner 128 barrettes qui permettront de faire tous les diagnostics.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37-321. C'est la fin de ce journal. La mise en onde a été assurée par Nuhum Djire. Restez à l'écoute dans un instant. La question A. Pour la question A du jour, nous parlons aujourd'hui de mendicité. Le phénomène de la mendicité prend de plus en plus de l'ampleur à Bamako, au-delà des lieux de culte, au carrefour devant les hôpitaux ou les pharmacies. Il n'est pas rare de voir des personnes qui tendent la main pour mendier une pièce de monnaie ou de la nourriture. Plusieurs profils se cachent derrière cette couche de notre société. Parmi elles, des mères de jumeaux, des orphelins et des personnes démunis qui peinent à joindre les deux bouts. Dans ce reportage, Diara Faskoy vous fait découvrir la mendicité sous toutes ses formes.
Assise au bord de la route, mal coiffée, Bintou Koita est veuve et mère de jumeaux. Seule à s'occuper de ses enfants depuis le décès de son mari, elle peine à assurer cette charge. Elle nous confie en larmes qu'elle n'a d'autre choix que de mendier.
Depuis que mon mari est décédé, je ne suis plus en mesure de nourrir mes enfants, raison pour laquelle je mendie. J'aimerais bien les inscrire à l'école, mais je ne peux pas, car ce sont eux qui m'aident à survivre, puisque je n'ai pas de travail.
Djenebou Djenta, 7 ans environ, se faufile entre les voitures au feu de stop. La petite fille dit mendier pour aider ses parents.
Nos parents sont pauvres, c'est pourquoi on vient manger ici, pour trouver un peu d'argent à leur apporter. Les gens nous crient dessus. Ils nous demandent d'aller à l'école. Ils nous disent d'aller travailler.
La grande mosquée de Bamako est une autre place pour les mendiants. Elle est très fréquentée par Oumar Sow, 13 ans. Originaire de Nioro, en fugue, il mène ici une vie de débauche.
Je suis laissé à moi-même. Les plus âgés nous retirent parfois nos sous et nous frappent aussi. Il nous arrive de nous droguer aussi pour aller voler. Je mendie pour me nourrir.
Que dit l'islam sur la mendicité? Abdallah Maïga, imam, estime que la mendicité est un acte légal selon l'islam, mais à condition que la personne soit vraiment dans les besoins.
La mendicité est permise par l'islam, car si quelqu'un mendie, c'est parce qu'elle n'a pas les moyens. Par contre, l'islam condamne les maîtres coraniques qui établissent une loi sur les talibés, en fixant ce qu'ils doivent apporter par jour. Il y a des personnes qui sont extrêmement pauvres. La mendicité est permise pour eux aussi.
La mendicité n'a pas d'âge à Bamako. Boubou Diallo, la soixantaine, est non-voyant. Kemande est un mal nécessaire selon lui.
C'est la pauvreté qui m'oblige à mendier. Sinon, je suis un chef de famille et j'ai des enfants à ma charge. J'étais paysan avant de perdre la vue, mais maintenant, je ne fais que mendier.
Selon des sociologues, la mendicité est un moyen de subsistance pour certaines personnes. Cependant, elle doit nécessairement être régulée. Yakuba Dogoni, sociologue.
Quels sont les éléments qu'il faut encourager dans la mendicité? Est-ce que sont les éléments qu'il faut vraiment bannir. Si on ne peut pas vraiment les interdire de venir dans la circulation, il faut créer un cadre de vie où on peut les localiser géographiquement, par exemple, à un moment de la journée, quand vous partez, par exemple, dans tel ou tel endroit, vous trouverez des gens là-bas.
Du côté de la population, certains expliquent la mendicité par la fainéantise et la recherche du gain facile. Pour d'autres, cela est dû à l'échec de certains parents dans l'éducation des enfants.
Plusieurs de ces enfants deviennent des délinquants.
C'est le gain facile qui pousse les plus grands à mendier. Sinon, il n'y a pas de sous-métier.
Certains mendient pour acheter de l'alcool ou de la drogue. D'autres mendient, en même temps ils volent.
C'est le fruit de la mauvaise éducation. Faisons attention aux enfants.
Rappelons que la mendicité est interdite au Mali par l'article 183 du Code pénal. Elle est passible de 15 jours à 6 mois d'emprisonnement.